Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes autour de la table du studio. En fait, c'est sous l'auvent de la buvette du quartier culturel que nous allons partager cette heure parce que le temps le permet, c'est magnifique, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, donc il y a juste un petit vent et c'est très agréable. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Elodie, d'Eliane et de Pascal à la technique. D'autres personnes vont nous rejoindre. Merci à vous d'être là et merci à Avi qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Avi est notre invité fil rouge. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, comme d'habitude, c'est de vous saisir du micro et de poser toutes les questions que vous auriez envie de poser à Avi. Libre à elle d'y répondre et de vous poser aussi des questions. Il y a une tradition, les derniers jeudis du mois, c'est la tradition des questions sous la forme de « si vous étiez ». Avi, si vous étiez un pays.
Ah, ça c'est une grande question. Si j'étais un pays, je crois que je serais le Costa Rica. J'ai eu la chance de découvrir ce pays parce qu'on a accueilli une fille costaricaine dans ma famille pendant une année. Et puis on a été là-bas, donc on a presque une famille au Costa Rica. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment découvrir. C'est un endroit où il y a une nature qui est incroyable, une faune, une flore qui m'a profondément touchée. Et aussi, je crois, dans l'énergie des gens, il y a un partage et une joie de vivre qui m'ont beaucoup plu.
C'est exactement où le Costa Rica, pour le replacer dans la map monde mondiale? C'est l'Amérique du Sud, certes, mais c'est...
Amérique centrale.
Amérique centrale, ben voilà. Amérique centrale, entre quel pays et quel pays?
Nicaragua et...
Ah, la colle. Non, je voulais pas vous coller sur ce pays-là, mais c'est plutôt on est quoi, est ou ouest?
On est entre les deux.
D'accord. Waouh, ouais. Wow, ça doit être magique de découvrir un pays comme le Costa Rica.
Ouais, qui est en fait tout petit et qui a beaucoup de diversité parce qu'il est entre ces deux océans et parce qu'il y a une terre volcanique. Et puis, il y a aussi le bord de mer, il y a la jungle et tout ça. Enfin, il est vraiment très, très divers. Et tout petit, plus petit que la Suisse. Il a pas d'armée, d'ailleurs. Enfin, il a un fonctionnement assez étrange. Et puis, c'est un des pays, je crois, où il y a une des consciences écologiques les plus développées, même si ce n'est pas forcément un pays qui est très, très riche. Mais voilà.
Si vous étiez un animal...
Si j'étais un animal, oh là là, quel col. Je pense que je serais... Là, ce qui me vient, ça peut changer, hein, mais ce qui me vient là, c'est peut-être le cheval avec une idée de la liberté, aussi de la course et de... Ouais, peut-être... Enfin, voilà, de cette liberté, la crinière au vent et un petit peu d'insouciance quand même. Voilà.
Si vous étiez une couleur.
Waouh, j'adore les couleurs. Et d'ailleurs, il y en a vraiment plein ici. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément l'occasion de venir à la buvette du Torrent, je profite pour faire une petite publicité parce que là, je vois tout le monde. En fait, il y a plein de couleurs super belles entre le jaune pastel et le turquoise aussi du mur de la buvette. C'est très, très joli. J'aime beaucoup le turquoise, ouais. Ça me plaît bien.
C'est une belle couleur. Si vous étiez un sens parmi la vue, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe, lequel choisiriez-vous ?
Je pense que je choisirais l'ouïe.
Pourquoi ?
Parce que je pense à la musique. Parce que si je devais passer beaucoup, beaucoup de temps à employer qu'un seul de tous mes sens, je pense que ça serait l'ouïe. Je pourrais écouter de la musique longtemps. Ou le chant des oiseaux, ou des petits bruits comme ça qui peuvent me faire beaucoup de bien.
Ou aussi la parole des autres.
Aussi la parole des autres.
Si vous étiez un art.
Je serais probablement la danse.
Et pour quelle raison ?
Parce que c'est pour moi une forme d'expression. Enfin, pour moi, l'art, c'est toujours une forme d'expression, bien sûr, mais vraiment qui donne la parole au corps. Et peut-être que, je ne sais pas, moi, je me sens pas toujours peut-être osée, et ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression, bah, je parlais avant du cheval, j'ai l'impression de pouvoir retrouver une forme de liberté dans l'expression corporelle, et j'ai un plaisir immense à danser. J'adore ça, vraiment.
Élodie, ça vous parle ? Je vous vois hocher de la tête.
Oui, c'est vrai que...
Il faut que j'en... Non, c'est bon, vous êtes près du micro.
Oui. Oui, c'est vrai que la danse, c'est vraiment un sentiment de liberté, de pouvoir s'exprimer soit seul, soit avec des personnes. C'est une sorte de communication.
Avis, si vous étiez un souvenir.
Le souvenir de la fabrication des merveilles avec ma grand-mère.
On va en parler de vos grand-mères parce que vous l'évoquez dans ce très, très joli fascicule, petit livre qui est paru il y a 2 ans, sauf erreur, ou l'année passée ?
En septembre 2024.
2024, pardon. L'année passée, et vous parlez de vos grand-mères. La confection des merveilles. Faut nous expliquer ce que sont les merveilles.
Alors, c'est des biscuits. Enfin, je peux dire les merveilles et les bricelets parce qu'il y avait 2 traditions, en fait, au début de l'hiver. Quelque chose qu'on faisait souvent chez ma grand-mère. Et en fait, on allait, nous, les petits-enfants, faire les petites mains pour préparer les merveilles et les bricelets. Donc, les merveilles, c'est en fait une pâte... qui est frite dans l'huile et puis on met un petit peu de sucre dessus et puis normalement c'est pour le carnaval, mais nous on le faisait toujours pour les fêtes de Noël. C'était les merveilles et les bricelets, puis après on les offrait à toutes les familles pour Noël, quoi.
Et mais... c'est des recettes que vous avez gardées et que vous faites toujours?
Ouais, je fais toujours ça, j'ai gardé les recettes et puis on continue aussi à les faire en famille, du coup on essaye.
Dernier, si vous deviez vous définir, que diriez-vous ?
Oh là là, ça c'est vague, large, ça me fait beaucoup penser. Je pense que la pensée prend quand même une grande place dans ma vie. Je pense être quand même pas mal dans le monde des idées, parfois un peu dans la lune. Mais quand même, plus le temps passe, plus je crois que j'arrive à organiser ces idées-là, même si elles sont parfois un peu spéciales. J'arrive à leur donner du sens et puis à les mettre en lien, à en faire comme une forme de tissage et puis à leur donner et du sens et une forme logique peut-être et une forme esthétique au final. Et donc, ça en devient de la poésie.
Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus, je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, it can't be true, je t'aime, I still love you. She came from a little town near Jonquière. I met her by the river and I lay with her there. I fell deep into her blue eyes. We drank the moon till it was dry. Our parents were enemies and never got along. They said it wouldn't work, they said it was wrong. But I married her anyway, I listened to my heart. I swore our love would never come apart.
Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, it can't be true. Je t'aime, I still love you.
Les cheveux roux comme les feux d'automne. Il était enfant, il était si jeune. Il m'a chanté une chanson. Sa voix m'a donné des frissons.
Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus, je t'aime.
you, ma jolie fleur. It can't be true. Je t'aime, I still love you.
We had some kids and our family grew.
On avait les batailles like families do.
Tous nos parents ont raconté those lies that drove her love away.
Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, it can't be true. Je t'aime, I still love you.
Ma jolie fleur, je me souviens those cold, cold nights you held my hand.
Ne me quitte pas, laisse-moi chanter.
Don't let our love just fade away.
Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, can't be true. Je t'aime, I still love you.
I'm on a northbound train and it moves too slow, but I'll make it back, my Chevy, please don't go.
Regarde les enfants entre nous, their hair is red, les yeux sont bleus. Ma jolie fleur, les yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, can't be true. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, les yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, can't be true. I love you.
Un mélange de français et d'anglais. La chanson que nous venons d'entendre s'appelle Destination et est interprétée par le groupe Heart Rouge. On peut peut-être le prononcer à l'anglaise Heart Rouge ou je ne sais pas trop. Et figurez-vous que cela a un petit rapport avec vous, Avi, puisque certains chanteurs et chanteuses de ce groupe faisaient partie d'un autre groupe dans les années 70-80 du siècle dernier. Ce groupe, en fait, était une famille, la famille Campagne, qui vivait dans les plaines de l'Ouest canadien et qui avait pris pour nom Folle Avoine. Voilà le rapport. C'est votre nom d'artiste, Avi, la Folle Avoine. Il va falloir nous en dire un petit peu plus. Pourquoi avoir choisi ce nom ?
Alors, ce nom, il y avait bien sûr une idée poétique là derrière. Et la première idée, c'était de parler en fait aussi un petit peu de mes combats écologistes et autres. Mais enfin voilà, c'était parler de ces espaces de monoculture et de comment est-ce qu'on s'invite dans ces interstices de la monoculture pour éviter que ça se propage encore plus, etc. Et puis j'ai pensé beaucoup aux techniques des plantes, en fait. Et du coup, la folle avoine, c'est une cousine de l'avoine comestible, qui est comestible pour les animaux, mais pas pour les humains. Et puis elle pose problème, en fait, dans les grands champs de monoculture céréalière. Et en fait, voilà, ça m'est venu un petit peu comme ça, parce que j'avais... à l'époque, j'avais le nom juste Avoine. C'est des façons, en fait, quand on fait partie de réseaux un tout petit peu engagés, on prend d'autres noms. Et puis après, à deux reprises, en fait, le nom La Folle Avoine m'est apparu comme ça, comme un signe sorti nulle part. Une fois dans une boîte à livres, un livre qui s'appelait La Folle Avoine, qui parlait des sorcières, de plein de choses. Et puis, en fait, ça faisait beaucoup de sens pour moi, donc j'ai choisi de le garder.
Oui, puis vous l'avez dit, la folle avoine, elle n'est pas aimée par les agriculteurs parce que c'est une plante envahissante. Et c'est intéressant parce que envahissante, on peut le voir sous deux manières. Il y a l'envahissement qui nous tétanise, qui nous encercle, mais il y a aussi l'envahissement pour faire peut-être un tout petit peu changer le mode de fonctionnement.
Alors, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, quand il y a quelque chose qui se met à envahir quelque chose d'autre, c'est qu'il y a en fait un dérèglement de base. Et que du coup, il y a des espèces qui vont prendre le dessus, etc. Et puis, d'ailleurs, justement, vous avez pris mon livre aussi, où je parle beaucoup des pigeons, notamment. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on se bat, en fait ? Comment on lutte contre ces espèces qui envahissent les espaces ? Et il y a toute une, enfin, ou en tout cas, j'ai toute une réflexion par rapport à ça, de dire, mais en fait, si on allait creuser un peu plus loin de, pour chercher où est le réel problème ? Est-ce qu'il faut détester ces espèces-là qui prennent de la place ? Ou alors est-ce qu'il faut réfléchir de façon beaucoup plus systémique, en fait ?
Oui, on va en parler de ces pigeons, parce que justement, vous l'expliquez dans votre livre, c'est un très joli livre, un ouvrage publié l'année dernière, qui est issu de votre travail de master de l'école de design et haute école d'art du Valais. Mais je voudrais juste revenir par rapport à votre alias, à votre double, la folle avoine. Vous dites dans un petit texte explicatif, je vais en lire quelques lignes, que la folle avoine est une entité artistique et sensible qui s'octroie le droit de s'implanter et de croître malgré les biocides et la pratique de la monoculture. Elle crée et elle cherche, voyageant entre les univers, s'inspirant de la diversité qui lui permet de découvrir son perpétuel mouvement. C'est très joliment dit, ça vous représente complètement.
Alors en tout cas, ça représente la folle avoine. j'ai aussi grandi ici en Valais, il y a toute une autre partie où il y a d'autres facettes de ma personne qui sont aussi présentes. Je suis... Je pense qu'on est peut-être, que je suis peut-être pas la seule aussi à voyager un petit peu entre des différentes personnalités ou appuyer un peu plus une facette puis une autre facette. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que le fait d'avoir choisi d'employer cette identité un petit peu de la folle avoine, ça m'aide peut-être à prendre plus de liberté dans la personne que je suis, dans ce que j'ose être aussi, et dans l'art que j'ose proposer. Justement, quand je parle de monoculture, on peut le comprendre de différentes manières. Ça peut être la culture en termes d'agriculture, mais aussi la culture en termes d'art. Et puis, c'est vrai que souvent, il y a des attentes, et puis on peut avoir tendance à se plier aux attentes et puis à faire un art qui convient. Et puis, c'est important de ne pas non plus être... dans la révolte totale et puis de vouloir tout casser. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment très, très, très important de savoir s'écouter et de savoir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur et qu'est-ce que j'ai envie de faire comme art, en fait.
Voilà. Justement, vous êtes une artiste pluridisciplinaire. Quelles sont ces cordes de votre pratique multidisciplinaire ?
Alors, j'ai parlé avant de la danse. Je m'intéresse beaucoup, beaucoup au corps, au mouvement et à la danse. J'intègre ça dans des performances que je fais. Donc dans la performance, je mélange justement le mouvement et le texte souvent. Donc voilà, il y a le corps, le mouvement, le texte. Et puis après, je fais plein d'autres choses pour habiller tout ça. Donc je me mets à faire de la couture pour créer des fois des costumes, des décors et installer. Enfin, je fais des installations au final parce que j'ai envie d'organiser l'espace pour que ça corresponde à ce que je veux dire. Donc au final, je mélange vraiment beaucoup de choses selon ce que je veux partager et l'intention que je veux donner à un moment.
Vous parlez d'installation, mais il y a aussi de la désinstallation, si je peux me permettre ce terme. On va faire un saut dans le temps. En octobre 2020, vous êtes à Neuchâtel et vous marchez jusqu'à la rue des Moulins. La suite, c'est vous qui nous l'a raconté, si vous le voulez bien.
Volontiers. Oui, ça, c'est vrai que c'est de la désinstallation. Et ça montre bien aussi que mon travail part d'abord plutôt d'observation, de questionnement sur... Voilà, comment est l'espace, qu'est-ce qu'on peut y ajouter ou qu'est-ce qu'on pourrait y enlever. Parce que c'était justement sur la rue des Moulins à Neuchâtel où j'ai observé la place de la statue de David de Pury. J'ai vraiment réfléchi à l'aménagement urbain, à quelle place est réservée pour qui est représenté sur des statues. Donc il faut savoir que c'est quelqu'un, ce monsieur, c'était pas un esclavagiste, mais il a fait beaucoup de commerce qui a eu un impact assez négatif sur plusieurs pays d'Afrique notamment. Et du coup, qui sont ces personnes qui sont sur les statues et comment est-ce que, ou qui sont représentées en statue et qui sont un petit peu les mises au ban de la société. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des pics anti-pigeons partout. Donc j'ai beaucoup réfléchi, puis je me suis dit, refaire une statue d'un pigeon, ça n'a pas vraiment de sens non plus, parce que c'est de nouveau employer des méthodes peut-être qui ne sont pas super... qui aident pas le vivant à se développer, mais qui sont plutôt destructrices. Donc je me suis dit, peut-être que c'est le moment d'enlever aussi. Et donc, en fait, les pigeons avaient élu domicile devant l'entrée du centre d'art de Neuchâtel, le CAN. Et donc, j'ai travaillé un petit peu en collaboration avec eux, un petit peu avec les parcs et jardins de la ville et la voirie et tout ça. Et puis, on s'est mis d'accord pour enlever le banc et les pavés qui se trouvaient sous l'arbre où les pigeons avaient élu domicile, parce qu'en fait, toute cette zone était tout le temps recouverte de fientes, donc personne ne s'est jamais assis là. Et donc, c'est devenu la place des pigeons, un espace qui était dédié à leur vie, puisque de toute façon, ils étaient déjà là.
Par rapport à cette démarche artistique, il y a eu un article publié dans le Courrier de Genève en 2021 avec un très joli titre, « Sous les pavés, le sauvage ». Et vous dites notamment que nous n'arrivons pas à vivre sans tenter de contrôler ce sauvage. C'est juste ?
Ouais, tout à fait. Parce que justement, je dis aussi dans le texte que, voilà, que le sauvage, on a envie d'imaginer ça toujours comme quelque chose de très exotique et aussi où on n'aurait pas notre place dedans, mais peut-être qu'on peut l'imaginer aussi autrement. On peut imaginer en fait que le sauvage, c'est ce que l'on ne contrôle pas finalement. Et puis, mais on peut y appartenir. On peut appartenir à ce sauvage. Et puis, ça peut être simplement du chien-dent qui pousse dans le jardin, laisser un peu de place à ce chien-dent et pas vouloir tout le contrôler. Est-ce qu'on arriverait peut-être à cultiver notre jardin en ne contrôlant pas tout, en laissant un peu de place pour certaines adventices, un peu de chardon, et voilà, chardon Marie qui est super bon pour la santé en plus.
Vous avez un jardin ?
J'en ai plus, malheureusement, ça me manque terriblement. Mais j'ai longtemps eu un jardin et j'ai même repris un terrain de mon arrière-grand-mère qui était paysanne avec un verger en haute tige où j'ai fait de la permaculture. J'ai eu des petits animaux, j'adore ça.
Élodie et Eliane, est-ce que ça vous parle justement, ce que vient de dire Avi, Eliane ?
Alors absolument Avi. Je me posais une question par rapport au début de votre témoignage. Au Costa Rica, est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux dangereux, genre comme en Australie ?
Alors,
si vous ne savez pas, c'est pas grave. Hein.
pas à ma connaissance. En tout cas, moi, on m'a pas. Quand j'étais là-bas, on m'a jamais dit de faire attention à des animaux. Peut-être des singes qui pouvaient éventuellement nous piquer des trucs. Il y a des crocodiles.
Et puis des reptiles aussi, je crois savoir.
Alors, ouais, effectivement, il y a quelques animaux dangereux, mais c'était pas. C'est pas quelque chose. On s'est baladé dans des réserves naturelles, etc. Il n'y a jamais eu de mise en garde extrême par rapport aux animaux, etc. Il y avait beaucoup de paresseux dans les arbres. C'est la première fois que je voyais des paresseux. C'était super.
Merci. Merci.
Un animal extraordinaire, le paresseux. Élodie, éventuellement, vous avez envie de partager quelque chose ? Non ?
Non, pas pour l'instant.
D'accord, pas pour l'instant. Avi, vous dites aussi dans ce même article que j'ai évoqué là, dans le Courrier de Genève en 2021 que vous avez envie de créer avec les autres et pas contre les autres. J'ai lu « Nous avons besoin de douceur et d'espoir. Chaque petit pas est une victoire.
» Ouais, tout à fait. Ben alors, déjà, créer avec les autres, pour moi, c'est la base. Et surtout, partager cette envie de créer, en fait. Parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a une souffrance ou dès qu'il y a quelque chose, en tout cas pour moi, la création ou la créativité, c'est vraiment une réponse à ça. C'est vraiment une façon justement de faire ces petits pas en fait pour aller vers quelque chose de mieux à travers quelque chose ou une pratique qui me fait du bien en fait. Et pour moi, de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui peuvent peut-être aussi aller dans cette même direction et puis se sentir mieux et faire partie de tout ce mouvement qui va vers le mieux, ben c'est formidable, quoi.
Créer avec les autres, ça pourrait être inscrit au fronton de la buvette du Torrent qui nous accueille ici, parce que c'est vraiment là où se trouve le quartier culturel, ici à Malévaux, et c'est vraiment aller vers les autres. Est-ce que vous connaissez le quartier culturel de Malévaux ?
Je le connais très très peu malheureusement et d'ailleurs là j'ai été voir un petit peu quelques trucs sur le site internet et ça m'attire beaucoup en fait. J'ai l'impression de résonner énormément avec ce lieu Je me dis pourquoi ? Pourquoi je suis pas venue un peu plus avant ? Mais du coup, il faut que je vienne.
Il y a cette magnifique légende du colibri que vous connaissez certainement. Je la résume en quelques mots. Un jour, il y a un immense incendie dans une forêt. Tous les animaux sont terrifiés, atterrés, et ils observent complètement impuissants le désastre. Mais il y a le petit colibri qui va chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour éteindre le feu. Les animaux le regardent et ils disent « mais t'es complètement fou ». Ils disent « c'est pas avec cette goutte d'eau que tu vas éteindre le feu ». Et le colibri répond « je le sais, mais je fais ma part ». Être un ou une artiste dans le monde actuel, ce n'est pas une façon, quel que soit l'art que l'on pratique, de faire sa part ?
En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, effectivement. Après, j'ai une petite tendance, des fois, à prendre de l'eau comme si j'étais un autre animal, alors que je suis qu'un petit colibri. Et puis ça, c'est aussi quelque chose une chose à laquelle il faut vraiment faire attention, je pense, en tant qu'artiste ou en tant que personne un petit peu engagée ou qui a une envie d'aider, de contribuer, de savoir aussi se respecter soi-même, respecter son propre corps et ses propres limites.
On va écouter un petit peu de musique. Il s'agit de Ljubljana que vous m'avez fait découvrir à vie et que je vous propose d'écouter maintenant. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman, if a man needs a woman. A woman, if we all love a woman, then shall we respect our woman's daughters, sisters, mothers, warriors. Para fina musso, para fina musso, para fina. So you're stronger than you know. Since we came from a woman who gave it all for her children, if the souls are from heaven, then shall we protect our women? May we treat them right, may we see their fights, may we Ljubljana, une chanteuse, compositrice belgo-camerounaise et joueuse de kora, cet instrument à cordes utilisé pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest et dont elle est une des rares femmes à la pratiquer puisque ce sont principalement les hommes qui en jouent. Et c'est grâce à vous, Avi, qu'on découvre Ljubljana qui sera à la Spirale en mars l'année prochaine. Donc si jamais, prenez déjà date, j'ai pas exactement la date en tête, mais c'est regardez sur le site de la Spirale, elle sera là. Et je pense que ça va être un très très beau moment à partager. Dans votre ouvrage, Avi, vous publiez un poème d'une poétesse et écrivaine américaine, Grace Paley, intitulé j'ai pas un très très bon accent anglais, mais c'est responsabilité. Et je veux juste citer le dernier vers que l'on peut traduire en français ainsi. Il est de la responsabilité du poète d'être une femme, de garder un œil sur ce monde et de crier comme Cassandre, mais d'être écoutée cette fois. Je trouve magnifique. Et merci d'avoir partagé ce texte, ce poème dans cet ouvrage, Le cri du jet. D'ailleurs, on va parler pourquoi le cri du jet, pas le cri du pigeon. Ça, c'est une question que j'ai. Mais comment est-ce que vous avez découvert cette poétesse américaine ?
Alors, je l'ai découverte en farfouillant entre Internet, entre les bibliothèques, quand j'étais en train d'écrire ce livre, ou plutôt de rassembler des bouts de texte, parce qu'il est construit plutôt comme un collage où je mélange autant des textes que j'ai pu écrire moi, mais aussi des personnes qui m'inspirent. Et voilà. Ouais, elle faisait partie vraiment de ses inspirations. Et ce texte de la responsabilité m'a énormément touchée. C'est sûr que qu'être une artiste femme, ça a quand même son importance et c'est pas anodin du tout.
En quoi c'est pas anodin d'être une artiste femme ?
Parce qu'à mon avis, parce qu'on porte une voix, enfin on a la voix, on représente tout un genre qui a pendant des millénaires qui n'a pas eu une place dans le grand espace des artistes, en fait. Et puis l'art est aussi est une parole, en fait, et puis créer la culture. Et donc dans une culture à dominance masculine ou une culture qui est créée par les hommes, on fait développer tout un système qui soit politique ou qui soit, enfin voilà, peu importe, qui va dans le sens, en fait, qui est bénéfique pour les hommes, du coup. Et donc le fait d'être des femmes à faire de l'art et à donner à amener un petit peu notre goutte d'eau pour donner un petit peu un chemin à la culture ou une direction, je pense que c'est très très important. Et même si des fois c'est dur, il faut être là, il faut qu'on soit là.
Oui, et en fait vous parlez de la goutte d'eau, donc ça me fait penser au colibri, et je me dis, le colibri, c'est quoi le nom de la femelle du colibri ? La colibrette ? Eliane, qu'est-ce que vous en pensez ? Parlez dans le micro.
Je pense que c'est la même chose.
C'est la même chose.
La colibri.
La colibri. c'est très joli parce que vous avez intitulé déjà votre livre, votre recueil, Le cri du jet. Pourquoi ?
Alors, le cri du jet, en fait, il y a un moment dans le livre, c'est une fraction de seconde, où tout à coup, il y a le cri, et là, le cri d'un jet. Et c'est comme, en fait, c'est tout ce moment d'écriture, en fait, je vis à Granges, sur ce terrain, justement, de mon arrière-grand-mère, qui est paysanne, et je suis vraiment très en lien, en fait, avec la nature qui m'entoure, avec les oiseaux, les pigeons, c'est un type d'oiseau, c'est un travail que j'ai fait à Neuchâtel, mais en fait je regarde, que ça soit les geais, les pies qui viennent se mettre devant la fenêtre, les moineaux, les rouges-gorges, etc. Et ils sont présents, en fait, et c'est comme si tout ce petit monde, en fait, dans le texte, il y a les oiseaux, puis il y a aussi d'autres animaux, il y a tout à coup une belette et un chien qui ont une correspondance par lettre, enfin voilà. Et c'est comme si tout à coup les animaux, les éléments, même l'eau, la pluie se met à s'exprimer pour revendiquer des droits, peut-être, ou pour demander le respect, pour demander l'écoute. Et comme si tout à coup tout le monde, en fait, les animaux, le jet, et peut-être c'est peut-être le jet qui va faire tout à coup une œuvre d'art, comme et avoir une voix comme la voix que peuvent avoir les femmes en étant artistes.
Justement, c'est une émission très féminine, on est que, pratiquement que des femmes, sauf Pascal, à la technique, et c'est Gabrielle qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez Malévaux ?
Oui, alors ça fait très 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 longtemps que je ne suis pas revenue, mais j'étais ici il y a un tout petit peu plus de 22 ans, où j'ai été hospitalisée pendant 8 semaines.
Et 22 ans, est-ce qu'il y avait déjà le quartier culturel ? Est-ce que vous avez connu cette structure ?
Non, je viens d'apprendre en arrivant qu'il existe depuis 15 ans. Donc non, il n'existait pas encore. Mais je garde un excellent souvenir. Alors j'étais là entre janvier et mars, avril. Enfin, bref, en début d'année, je sais quand j'en suis sortie, c'était aussi le printemps, c'était aussi ce cadre magnifique, verdoyant et qui appelle à, je sais pas, une forme d'apaisement.
C'est ce que vous avez ressenti lors de votre séjour ici, quand vous êtes sortie, quand vous avez été dans le parc, quand vous avez été... Parce que c'est vrai que le parc, l'environnement nature ici à Malevo est assez extraordinaire.
Il est assez extraordinaire. Moi j'étais dans un... Je suis arrivée dans un état plutôt joyeux que l'inverse de joyeux. mais le parc et l'ensemble, le fait d'être en pavillon aussi, c'était... Alors c'était ma première expérience... en hôpital psychiatrique, mais enfin c'était ma première à moi en tant que patiente, mais j'en avais vu d'autres où j'étais allée voir des personnes, et clairement ce cadre là était très favorable au ressourcement, et accessoirement les soins que j'y ai reçus étaient relativement peu conventionnels aussi, et c'est ce que j'ai apprécié.
Ça veut dire quoi, des soins relativement peu conventionnels ?
Ben déjà, je suis arrivée et pendant 3 semaines, on m'a donné 0 médicament. Et ça, quand on arrive en état de décompensation quand même relativement aiguë, c'est peu commun. Et puis ensuite, j'ai eu droit à des PAC, donc ce traitement où on est enfermé dans des draps congelés préalablement pour se recentrer. Et selon les avis, c'est considéré comme un peu comme de la torture. Enfin bref, comme des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Moi, pour moi, c'était clairement une aide. Mais c'est seulement au bout de 3 semaines et au bout de justement ce genre de traitement. Et puis le fait, moi, j'ai beaucoup apprécié le pavillon d'ergothérapie où j'ai passé énormément de temps. Et à la chapelle et le parc.
Donc, voilà, c'est... Oui, c'est tout un environnement ici à Malevo. Et on va faire une petite dédicace à Elvio parce que vous êtes aussi père aidant.
Absolument.
Ça consiste en quoi ?
Ben, en gros, la père aidance, c'est le fait de... Ben, c'est des personnes qui ont un vécu de la souffrance psychique. Donc pour moi, ça remonte à un peu plus de 22 ans. Et qui ont parcouru un chemin de rétablissement qui fait que on apprend des choses sur son vécu et du vécu avec la maladie, où on apprend à découvrir comment c'est possible de vivre, un, de vivre, et puis deux, de vivre positivement, avoir une forme d'épanouissement avec un trouble psychique qui revient potentiellement par moment. 22 ans après, il n'a pas disparu. Et l'idée, c'est de mettre cette expérience du vivre, d'apprendre à vivre de manière épanouie avec un trouble dans différents contextes, que ce soit l'accompagnement des personnes, que ce soit l'accompagnement ou la formation des professionnels, que ce soit un interlocuteur pour les proches. Il y a tout un tas de champs dans lesquels on peut intervenir en tant que père aidant.
Est-ce que l'art est important lorsque l'on n'est pas bien ?
Je pense que quand on n'est pas bien, c'est très très individuel ce qui aide. Moi, clairement, que ce soit la musique, le mouvement, l'ergothérapie, moi j'y ai créé de la, j'ai cousu, j'ai peint, je me souviens avoir fait de la pyrogravure que j'ai encore maintenant. redemande-lui.
C'est votre petite fille qui a aussi envie de participer, c'est normal. Hein.
Alors, viens t'asseoir sur mes genoux. Et pour moi, ça a été clairement déterminant. Accessoirement, juste avant d'arriver ici, je sortais... Non, pas juste avant, parce que du coup, j'ai passé 3 mois d'abord chez mes parents. Mais avant ça, je sortais 3 mois en école de théâtre. Donc la dimension culturelle et artistique était déjà présente passablement avant. Et ça fait partie de mes ressources. Et je pense que ça fait partie, que ce soit la lecture, que ce soit la peinture, que ce soit la danse. Il y a la pratiquer ou... Or, la regarder pratiquer par d'autres peut clairement être une favorise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de différentes formes d'art-thérapie, surtout en psychiatrie, j'imagine peut-être aussi dans d'autres disciplines médicales.
Exactement. Avi, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport... Justement, on rejoint la danse, on rejoint la peinture, on rejoint l'écoute, la musique... comme artiste
Je suis très touchée. J'ai du mal des fois à dire des mots après quand je suis touchée. C'est beau aussi que ces mondes-là puissent se rencontrer, qu'on puisse trouver des... peut-être... Ouais, justement, des formes. Ben, vous avez parlé de ces tissus congelés qu'on mettait autour de soi pour se recentrer. Ou comment est-ce qu'on peut se recentrer, avec quels moyens? Enfin, justement, ça peut être aussi dans le mouvement, ça peut être dans le type d'activité qu'on va faire, des fois par le geste. J'en sais rien, moi, si je dois me canaliser un petit peu, et puis ben peut-être qu'un mouvement répétitif va me faire du bien, en fait, et du coup, ben peut-être que je vais me mettre à faire du crochet ou du tissage, ou je sais pas. Et si j'ai besoin de lâcher prise, d'exprimer des choses avec force, je vais faire de la peinture abstraite avec, enfin, en laissant un peu gicler les couleurs comme ça. Mais je pense que on peut pas, c'est pas comme vous avez dit, en fait, c'est pas... Enfin, c'est très personnel, en fait. Quel est le médium qui va nous convenir pour répondre à nos besoins? Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à sentir de quoi j'ai besoin, en fait. Qu'est-ce qui me ferait du bien?
Élodie, je vous observe depuis un petit moment. Vous prenez des notes. Est-ce que vous êtes d'accord de nous dire pourquoi vous prenez ces notes? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le propos? Ou si ça n'a absolument rien à voir, hein, je suis très curieuse. Hein, ça, c'est ma nature.
Non, c'était par rapport à... C'est Gabriel. Par rapport à ce que Gabriel a dit. C'est vrai que... Alors, déjà, le cadre de Malévo, là, j'ai fait aussi un séjour de 2 semaines ici. Puis ça m'a vraiment aidée. Je me sens maintenant plus épanouie. Je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Avant, j'étais fermée. J'aurais même pas parlé au micro. J'aurais même pas été ici. Mais c'est vrai que ça m'a permis de me soulager, de m'apaiser. Et puis, par rapport à l'art, qui permet de se sentir aussi épanouie. Tout type d'art, que ça soit créatif, qu'on fasse de la musique, de la peinture, lire un livre... Ça permet de s'apaiser vraiment, et puis c'est vrai que c'est bien. Je ne sais même plus ce que je voulais dire au
début. Bah oui, c'est quelque chose qui vous réunit, l'art, je pense, les trois là autour de cette table. Gabrielle, hein?
Alors moi, j'ai été éduquée à intégrer l'art très tôt dans ma vie, donc c'est plus ou moins voulu, mais en tout cas, c'est resté. Moi, je me souviens notamment d'une séance que... Ici, moi, c'est dans la salle de sport où j'avais convaincu, je ne sais plus si c'était le médecin ou l'ergothérapeute, ou, enfin bref, et où j'ai passé 1 heure à écouter de la musique. Enfin, c'était ma musique à fond, et c'était du défoulement complet à danser, chanter. Je crois que cette fois-ci, c'était sans pleurs. Mais, et voilà. Et que la culture... Indépendamment de la maladie, je pense que la culture et l'art sont déterminants dans le monde de manière générale, et encore plus dans le monde d'aujourd'hui.
C'est quelque chose que vous partagez aussi, Avi?
Tout à fait, oui, tout à fait. Je pense qu'on vit un moment, un moment particulier. Peut-être que tous les moments de l'existence de l'humanité ont été particuliers, mais actuellement, on a aussi conscience de tout ce qui se passe. Il y a une conscience peut-être globale, tout va très très vite et s'accélère de plus en plus. Et on a quand même l'impression qu'on va vers certaines limites aussi. Et je pense que, enfin, c'est personnel comme point de vue, mais j'ai vraiment l'impression que l'art peut contribuer peut vraiment fortement contribuer à changer quelque chose dans la distribution des cartes.
Alors, dans cette accélération du monde, on a l'habitude dans cette émission d'accueillir des chroniqueuses et des chroniqueurs. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une chroniqueuse en la personne d'Eliane que l'on va écouter maintenant.
Alors, dans la nouvelle trilogie sur les animaux, je vais vous décrire la vie d'un âne de travail. Une mini-présentation de cet animal. Leur taille est extrêmement variable. Pour une bête de taille moyenne, la fourchette est de 1m10 à 1m40. Et ils font à peu près jusqu'à 300 kilos. Or, le cri de l'âne, c'est « il braie ». Donc, il peut vivre jusqu'à 25 ans. Mais il a besoin d'être motivé pour faire quelque chose. Il s'entend avec tous les animaux de nos campagnes. L'idée d'effectuer un travail correct est de mettre l'âne avec les moutons de la ferme pour que chacun s'imprègne bien l'un de l'autre. Ensuite, début juin, départ des moutons pour l'alpage. Il faut environ 4 à 5 heures pour que les moutons atteignent leur QG d'été. Comme gardien de troupeau, l'âne va le protéger contre les chiens errants, le loup et bien d'autres. Mais revenons à notre ami Cadichon. Comme l'âne dans les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Alors les bergers restent tout l'été avec les moutons. C'est pour ça que Cadichon doit leur apporter de quoi se substanter. Comment ça fonctionne ? Avec une longue corde, le propriétaire va emmener son âne batté, donc avec des charges de chaque côté du corps, rempli de nourriture. Sur ce trajet, il le laisse prendre ses propres repères. L'âne va redescendre au trot à l'écurie. Ils n'aiment pas du tout le galop, ils ne sont pas du tout équilibrés pour ça. Et il fera les prochains trajets tout seul. Donc en bas, ça veut dire que y a quelqu'un qui va remplir les sacs. Et en haut, il décharge une petite caresse aux oreilles, parce qu'ils adorent ça, une petite carotte, une claque sur les fesses, et le mouton redescend. Il y a beaucoup de croisements aussi entre les ânes. Donc l'âne et la jument, ça donne le mulet. C'est ce qu'on connaît le mieux. Il mange, donc pas le mulet, mais Cadichon. Cadichon mange de l'herbe et de temps en temps du son. Du son, pas comme ici, mais un dérivé du blé. Voilà.
Merci Eliane pour votre chronique. Est-ce que ça vous inspire ? Vous avez envie de réagir, Gabriel, Avi, Élodie éventuellement ? Moi, en tout cas, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film, Antoinette dans les Cévennes, où c'est
évidemment.
Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Avi, Gabriel, Élodie, ou Pascal. C'est un film à voir parce que c'est vraiment une personne qui part justement avec un âne. Et quand même, les ânes sont alors, c'est de très jolis animaux, mais alors ils sont têtus, On est bien d'accord, ça vous avez oublié, Eliane.
Oui, j'ai oublié de le dire. C'est vrai qu'ils sont tellement têtus que j'y ai pas pensé. Ça fait partie de l'âne, en fait.
Mais on est dans ce rapport de la nature et des animaux. Avi, vous avez évoqué les animaux. Et c'est vrai que je voulais juste revenir à votre livre « Le cri du jet ». En page 27, vous écrivez quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai découvert aussi. Vous écrivez que le mot oiseau, donc au pluriel, est le plus long mot de la langue française dont on ne prononce aucune lettre. Je vous laisse faire l'exercice. Un petit temps de silence en radio, c'est toujours agréable. On est bien d'accord. On prononce aucune lettre de oiseau. On prononce pas le O, on prononce pas le I, on prononce pas le S, puisqu'on c'est un Z. On prononce pas le E, on prononce pas le A, on prononce pas le U et on prononce pas le X. Et oiseau.
Pourtant il vole. Hein.
Et pourtant il vole, exactement. Et oiseau, c'est aussi le plus petit mot contenant toutes les voyelles. Alors ça, je n'ai pas fait de recherche, j'espère, je compte sur vous à vie pour l'exactitude de ceci, j'ai trouvé ça magnifique. Hein.
Merci beaucoup. Oui, ben voilà, après, c'est sûr que de travailler, ou en tout cas de jouer avec les mots, ça donne envie de voyager un petit peu avec, et puis de les connaître, de les comprendre. Et moi aussi, c'est une information que j'ai trouvée comme ça, un peu au vol, comme beaucoup.
Ça tombe bien pour un oiseau.
Et souvent, ça tombe bien, effectivement. Et elle m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup plu de glisser ça dans le livre comme une petite parenthèse que j'ai trouvée aussi très poétique et qui amène peut-être un peu de mystère dans la vie des oiseaux.
Je suis d'accord de mystère, mais quand je l'ai lu, j'avoue, j'ai souri. Et j'étais dans le train et les gens m'ont regardé un petit peu bizarrement en disant « Oula, qu'est-ce qu'elle est en train de lire, elle ?» Mais c'est vraiment, j'ai eu un sourire parce que je trouve ça très, très joli, très poétique. Gabrielle.
Oui, et j'étais en train de me dire, le S, souvent, il se prononce souvent Z, effectivement, j'aurais juste le S. Moi, je suis en train d'apprendre à lire à ma fille et effectivement, de se rendre compte de la difficulté. Enfin, du nombre de lettres qui ne s'entendent pas dans la lecture en français.
Ça peut être l'idée d'une prochaine performance. Les lettres qu'on n'entend pas à vie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh là là, il me faudrait du temps pour y réfléchir, mais effectivement, ça pourrait se faire de nouveau sur la base du livre, peut-être, avec il y a toute cette question de la lettre aussi, de l'écriture, enfin il y a la lettre du mot, il y a la lettre qu'on envoie, et puis il y a aussi un petit extrait que j'aime bien où je parle de l'écriture qui ressemble à l'écriture du papa, en fait, où j'écris, en fait, mon écriture ressemble à celle de mon père. Et en fait, tout ce que ça dit aussi, la façon qu'on a d'écrire. Donc, je trouve ça hyper beau, ce moment d'enseigner à sa fille l'écriture, la lecture et tout ça. Enfin, c'est une transmission qui est forte, qui est riche. Et je pense qu'elle reste quelque part après dans notre façon qu'on va avoir de lire, d'écrire peut-être. Ouais.
Oui, et c'est une transmission générationnelle, intergénérationnelle. Et ça, c'est extraordinaire.
Oui. Et d'ailleurs, parce que mon parcours de vie fait que j'ai appris à lire et à écrire en allemand d'abord. Et du coup, c'était beaucoup plus simple. Et vous parliez de votre grand-mère. Moi, c'est ma grand-mère en partie qui m'a appris à lire en français. Parce qu'à un moment donné, on a déménagé, on allait se retrouver dans un espace francophone. Il a fallu que j'apprenne à lire et à écrire en français. Et il me semble que c'est ma grand-mère qui a largement contribué au... à mon apprentissage de la lecture et de l'écriture en français. Ma grand-mère, je crois.
Le rôle des grands-mères, le rôle des mamans, certes, mais le rôle des grands-mères, c'est peut-être un thème d'une prochaine émission, mais c'est un thème qui est aussi qui a son importance dans votre livre. Avi, vous avez évoqué votre grand-mère, d'ailleurs, dont vous aviez hérité ou repris la petite maison et le champ attenant, c'est juste, hein?
Alors, il y a plusieurs grand-mères. Oui, il y a mon arrière-grand-mère qui était paysanne.
Oui. Et il y a votre grand-mère avec qui vous faisiez des merveilles et des bracelets.
Voilà, c'est sa fille.
Voilà, d'accord.
Et dans le livre, je parle de l'autre grand-mère, la mère de mon papa.
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le rôle des grand-mères, c'est important dans une vie. Alors, je ne sais pas si c'est important plus dans une vie de fille ou dans une vie de garçon. Ça, c'est une question que j'ai qui me traverse l'esprit comme ça. Est-ce qu'on est attaché à nos grand-mères, plus à nos grand-mères quand on est une fille ou c'est la même chose peut-être, remarquez.
Alors moi, je ne sais pas. La vie a fait que je n'ai pas eu de grand-père, donc je ne peux pas comparer entre une petite fille et son grand-père. Pour ce qui est... Alors, j'ai eu deux grand-mères, une que je voyais beaucoup plus que d'autres. Et elle avait des liens très forts avec ses 10 petits-enfants. Et fille, garçon, il n'y avait pas...
Pas de différence.
Pas de différence.
Hein.
Pareil dans ma famille, c'était oui, j'ai une grand-mère aussi qui avait plein de petits-enfants et tout le monde était fou de cette grand-mère. Et tout le monde allait la voir et tout le monde passait du temps avec elle. C'était comme ça.
Eliane, Elodie, comme vous voulez.
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère, ma mémé, comme on l'appelait au village, qui était une femme un peu perchée. Mais avec moi, c'était extraordinaire. Je passais les week-ends, les vacances. L'été, je ne rentrais pas à Lausanne. Moi, ce n'est pas là que je voulais vivre. Moi, je voulais vivre à la campagne. Et ma mémé, elle savait que je partais à cheval le matin, qu'à 11h15, je serais là. Puis à l'époque, on n'avait pas de portable. Hein. Donc, il fallait une sacrée confiance. Et puis voilà, avec elle, je passais des vacances extraordinaires. On se lavait pas tellement. Je me rappelle pas, j'allais chez ma tante qui me savonnait parce que on se lavait pas, ça se faisait pas à l'époque. Et j'ai eu la chance, enfin l'audace plutôt, d'aller avec Ingrid, le cheval, chez mon autre grand-papa à l'Unior. Donc ça faisait quoi, 2 heures. Mais tranquille, j'ai regardé, j'ai posé des questions. Dans le canton de Fribourg, et les gens d'en bas, ils sont très cool. Et j'ai fait la surprise à mon grand-père d'arriver chez lui. Et ça a fait la journée pour le village.
Ah bah j'imagine, à cheval.
À cheval, oui. Oui.
Et vous aviez quel âge ?
11 ans.
Ah bah dis donc. Effectivement. C'est pour ça que je comprends que c'est fait la
ouais,
journée au village.
Ouais, mais tout le monde... Après, on appelait avec le téléphone fixe pour dire qu'Eliane, elle était là, en fait. Pas que ma grand-mère me cherche, ma mémé. Alors, non, mais c'était pas un problème. Est-ce qu'elle rentre aujourd'hui ou demain ? C'était hyper cool.
La liberté, vous évoquiez la liberté,
absolument.
Avec le cheval.
Ouais.
C'est vraiment ça. Hein.
Oui,
c'est vraiment ça.
Oui, c'est ça. Hein,
oui. Elodie ? Oui, vous pouvez prendre le micro. Voilà.
Merci. Non, j'ai eu de la chance d'avoir deux grands-parents, enfin... Non, 4, qui avait 2 grands-mères et 2 grands-pères, de 2 cultures différentes, une culture plutôt suisse et puis l'autre culture plutôt indienne. Donc, c'était des ambiances un peu différentes. Du côté de mes grands-parents indiens, c'est du côté de ma mère. Alors, on était 3 cousines, enfin, on est 3 cousines, même un peu plus, mais on était souvent ensemble, donc c'était beaucoup plus joyeux. C'était une bonne ambiance. Alors que du côté de mon père, avec mes grands-parents, on était aussi beaucoup de cousins-cousines, sauf que comme j'étais la toute dernière, j'avais les grands-parents pour moi tout seul. Mais j'en garde aussi de très bons souvenirs.
Mais culturellement, effectivement, ça fait une différence. Ça a fait une différence aussi quand vous étiez petite ou vous ne la remarquiez même pas entre...
Je suis quand même un
quand
peu.
Même un peu.
Oui. Oui, c'était... Oui, oui. Mais après, on s'y fait.
Mais écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment, Avi, d'avoir partagé cette heure avec nous toutes et avec Pascal. Merci à vous. Merci à Elodie, à Eliane, à Gabriel. Merci à Dominique, à Pascal et à Julien qui ont assuré une nouvelle fois la technique, l'accueil et l'organisation de cette magnifique radio qu'est Pavillon Nomade. Cette émission peut être écoutée et réécoutée quand vous le voulez, à tout moment, sur le site www.pavillonnomade.ch. On se retrouve très vite. À bientôt.
Canyon Road, and the sky.